Amis de Radio Silence, je vous dis bonjour. Après les élections britanniques, on va revenir en Afrique. Ce n'était pas une obligation, mais cela s'impose par l'actualité. Alors, vous avez certainement dû entendre parler du sommet de la France-Afrique qui vient d'avoir lieu en France. Donc, c'est une réunion annuelle, je ne sais plus, je crois, entre la France et les pays de l'Afrique. Alors, elle a eu lieu, je crois, quelque part dans le sud de la France, mais peu importe. En tout état de cause, à quoi sert cette réunion aujourd'hui, alors que la France connaît des problèmes économiques très sérieux et que la France a une nouvelle politique de plus en plus tournée vers l'Europe? Alors, est-ce que c'est compatible une France européenne avec une France ex-colonisatrice, on va dire comme cela, pour ne pas dire les choses de façon très civilisée, alors que la réalité est ressentie comme cela. Donc, quel est l'équilibre entre donc cette France très, très européenne, oui, voilà, on va le dire simplement, très européenne, et la France version France-Afrique, façon Focard, façon parti du général de Gaulle, la tradition, jusque Jacques Chirac, qui continue d'ailleurs avec le président Nicolas Sarkozy, qui avait promis, vous vous souvenez, pendant sa campagne de 2007, la rupture dans les relations franco-africaines. Alors, le premier qui, tout de suite, s'est interrogé sur le fait que ces relations-là ne prenaient pas vraiment la voie du changement. C'est un ministre, je ne sais plus où il était, mais qui a été démissionné de ses fonctions, et celui là en ce moment aux anciens combattants. Alors, il était à la francophonie, ce ministre, j'oublie son nom là sur le coup, mais vous voyez très bien de qui je veux parler. Bien, ça veut dire quoi? Qu'en gros, les relations n'ont pas changé. Alors, c'était quoi la France-Afrique? La France-Afrique, c'est François-Xavier Verschave, un écrivain français décédé malheureusement très récemment, et qui était lyonnais et que j'ai eu la chance de côtoyer et de connaître au sein d'une association qu'il avait fondée et qui s'appelle Survie. Donc, François-Xavier Verschave, en 1985, a publié un livre très intéressant qui s'intitulait « La France-Afrique, le plus long scandale de la République ». Bon. Pourquoi le plus long scandale? Tout simplement parce que la chose était dite, mais pas vraiment. Elle était tue et combattue. Il fallait surtout pas en parler. D'ailleurs, on voit que Charles Pasqua continue à en payer les frais avec tous les procès qui lui sont faits. En ce moment, l'Angola Gate, etc. etc. Je ne vais pas insister là-dessus. Par contre, la France-Afrique, c'était quoi? La France-Afrique, selon François-Xavier Verschave, c'était une polarisation de la France et aussi des leaders africains sur une double rente. Donc, la rente des matières premières et la rente de l'aide au développement. La rente des matières premières, vous savez très bien, en Afrique, il y a des pays qui produisent vraiment beaucoup de pétrole. On parle du Nigeria, je connais moins bien, le Cameroun un tout petit peu, je connais mieux, le Gabon, l'Angola, où on a trouvé le plus grand gisement en ce moment de l'Afrique, et probablement l'un des plus importants, aussi important que ceux du Moyen-Orient. Donc, c'est Elf et Total qui opéraient, qui étaient les maîtres du jeu, et de toute façon avec Elf, à une certaine époque, c'était carrément le bras armé de la France, puisque Elf finançait en Angola à la fois la guerre, donc finançait la guerre, pardon, à la fois du côté du gouvernement comme du côté des combattants de la rébellion. Donc, fournissait des deux côtés, les uns officiellement dans la lumière et les autres dans le trafic au noir. En sorte que la guerre civile a duré 30 ans en Angola. Voilà les choses pour lesquelles la France a toujours été accusée de soutenir des dictatures en Afrique, de participer à des complots souterrains qui n'apportent pas la paix en Afrique, tout cela pour ses intérêts. On a l'exemple le plus frappant qui est celui du Niger, où le pouvoir n'a jamais été pris là-bas de façon démocratique, mais toujours par les armes, par des coups d'État. Or, le Niger, C'est quoi? C'est le deuxième producteur d'uranium au monde. Et l'uranium, ça rentre dans le nucléaire. Et c'est la France qui exploite pour 50% les sites d'uranium du Niger. En fait, la France en consomme 50% de la production d'uranium du Niger. En échange de quoi? Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde, comme Haïti, où les gens, comme on dit, selon les Nations Unies, ont moins de 2 dollars par jour. C'est vraiment la misère noire. Et forcément, les populations se fâchent. Non seulement on ne voit pas l'argent des matières premières arriver, mais en plus, il n'y a pas de démocratie. Le système est verrouillé par le haut pour justement pas que la population accède à ces dossiers-là. Enfin, de toute façon, ce ne serait même pas possible. Nous ne parlons même pas de la population, parlons déjà des corps intermédiaires, du genre avocats, magistrats et autres enseignants, etc., autres chercheurs. Donc la France, elle a accusé directement de compromettre la démocratie en Afrique à travers toutes ces liaisons financières et individuelles pas tellement claires. Ça, c'est la rente des matières premières. Puis, il y a la rente sur le plan de l'aide au développement. Alors, la rente de l'aide au développement, c'est quoi? C'est que la France accordait effectivement ce qu'elle appelle de l'aide aux pays africains à travers son agence de coopération et de développement. Ces agences-là sont installées dans tous les pays africains. Mais le problème, c'est que très souvent, cette aide, elle est donnée sous forme de prêts. Ensuite, l'aide elle-même, elle est liée par le fait que si la France vous accorde une aide pour construire des routes, pour construire je ne sais pas quoi, des hôpitaux chez vous, cela se fera à la condition que ce soit une entreprise française qui gagne le marché. Donc là aussi, hein, les offres, appels d'offres internationaux, vous voyez à quel point ça pouvait être corrompu, puisque déjà on sait que c'est un tel qui va gagner. Forcément, celui qui fournit l'aide, c'est lui qui fournit en même temps l'entreprise qui va être le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, de ce pourquoi l'aide a été donnée, enfin l'aide sous forme de prêt, c'est très compliqué. Moyennant quoi, François-Xavier Verschave, il avait beaucoup rigolé, il avait dit que c'était une aide, bon ça avait été déjà dit, hein, une aide liée, une aide conditionnée. Mais ce que François-Xavier Verschave dit de plus, c'est que voilà comment les pays africains, à force d'être aidés, se sont trouvés surendettés. Alors ça a débouché tout cela sur une crise extraordinaire en 85, une crise que l'Europe connaît seulement maintenant, mais en Afrique on a connu, et la crise elle existe depuis 85, les États sont en faillite. Ils sont carrément sous perfusion du FMI. Bon alors le FMI, c'est encore une autre histoire, qui a mis des plans d'ajustement structurel en place, façon Argentine, façon URSS, c'est-à-dire des choses qui ne pouvaient pas marcher, compte tenu du fait que les plans du FMI sont des plans macroéconomiques et que ces sociétés qui ont été frappées par la crise dès 1985 fonctionnaient sur quelque chose qui, de l'ordre de la microéconomie. Donc, ces gros plans qui sont arrivés par-dessus avec de gros schémas de privatisation ont plutôt, et de coupes, comme cela va se faire ici, d'effectifs dans la fonction publique, ont plutôt créé du désordre, ont fragilisé complètement l'équilibre minimum qui existait déjà. Et pire, ils ont refait rentrer la colonisation par l'autre porte, parce que là, ce n'est plus la colonisation des politiques, mais c'est la colonisation des multinationales et des banquiers qui avaient l'argent, qui ont tout acheté pratiquement. Bon, heureusement, je dis, il y a la crise, hein. On ne sait pas s'ils vont vendre ce qu'ils ont acheté là-bas. Dans le même temps, l'aide avait l'autre forme, c'est qu'on prêtait de l'argent aux Africains pour qu'ils rachètent des armes à la France. Vous voyez? Donc, toujours le même circuit diabolique. Et ces armes-là servaient à terroriser la population sur place. Donc, un circuit infernal de domination qui fait que la France, elle est très mal vue en ce moment en Afrique. Elle n'est pas responsable de tout. Mais elle a cautionné tant et tant de circuits au nom de je ne sais pas quoi. Mais à sa décharge, on va quand même dire que la politique d'immigration de la France, si vous regardez très bien, en fait, ce serait une façon de payer cette mauvaise conscience que la France a, en renvoyant un tout petit peu l'ascenseur, en ouvrant un peu plus ses portes aux Africains, parce qu'elle sait très bien que les politiques qui sont menées en Afrique sont des politiques anti-développement. Et donc forcément, avec la poussée démographique africaine, qui, bon, on peut dire ce qu'on veut, hein, elle est plutôt naturelle, fait que après, les enfants qui naissent là-bas, il faut bien qu'ils trouvent du travail quelque part. Et ce quelque part, c'est forcément la France. Bon, personne ne veut le dire ici. Il faut avoir le courage de le reconnaître, mais personne ne le dira. Hein. Personne ne peut prendre ce genre de risque. Donc voilà, l'Afrique fête cette année le 50e anniversaire de ses indépendances. Qu'a-t-elle fait de ses indépendances? Bon, c'est à elle de répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt.